Et en ce début de mois de mai, on parle de beauté avec vous, Marie-Pierre.
De la beauté des icônes chargées d'infini, Jonathan, bien loin de celles qui peuplent notre quotidien virtuel. Alors ces icônes, je les découvre dans les pages du numéro double de Famille chrétienne qui met en lumière et révèle l'art raffiné et spirituel des chrétiens d'Orient. Des chrétiens qui, comme l'écrit Samuel Pruvot dans son édito, ont su ouvrir des fenêtres sur l'invisible. Du Petit Palais à Paris, musée qui en France abrite la plus grande collection d'icônes exposées, en passant par les musées du Vatican, riches de trésors, eux qui témoignent du lien qui unit Rome l'occidentale à ses sœurs d'Orient, jusqu'au musée du Louvre où un département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient est en cours de constitution, Famille chrétienne recense toutes ces œuvres dont vous retrouverez quelques-unes dans les pages de Famille chrétienne. Alors, pour exemple, la grande icône de la Dormition du patriarcat maronite du XVIe siècle, ou bien le pavement du VIe siècle de l'église Saint-Christophe à Kerb Hiram au Liban. Toutes ces œuvres, rescapées du chaos de l'histoire, d'une terre blasphémée, comme l'écrit Emery Christensen, directeur de la rédaction de la Vie, en parlant cette fois du conflit Israël-Hamas, eh bien, toutes ces œuvres témoignent d'une foi profonde, foi qui stimule encore la nôtre. Quant au pape François, c'est ce que je lis dans la croix de ce lundi, depuis la prison pour femmes de Venise et qui accueille en ce moment le pavillon officiel du Saint-Siège de la Biennale d'art, le pape François donc a lancé un appel à défendre un autre patrimoine, le patrimoine humain menacé, celui des pauvres et des fragilisés.
Mais cette semaine, dans la presse chrétienne, on parle aussi de la beauté du sport.
Larguer les amarres. Ce samedi 27 avril, nous raconte cette semaine Élodie Moreau, notre consœur de la Croix, la flamme olympique a commencé sa traversée méditerranéenne. Le trois-mâts Le Bellem a quitté le port du Pirée avec à son bord le feu sacré. Le voilier devrait arriver le 8 mai prochain à Marseille, où débutera ensuite le relais de la flamme à travers l'Hexagone. En Seine-Saint-Denis, Philippe II va la suivre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Enseignant d'éducation physique et sportive, Philippe II sera l'un des porteurs de la flamme olympique de Paris 2024. Une récompense qui consacre 25 ans d'engagement en faveur du sport et de ses valeurs éducatives. Je commence à réaliser ce que cela veut dire, dit avec pudeur à Assia Hamdi du magazine La Vie, qui signe là un beau reportage. Celui qui, sur un terrain de sport, sait pousser ses élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes et à viser haut. Et ces mêmes élèves, dans quelques mois, assisteront à des épreuves de paranatation de Paris 2024. Mais avant de se rendre à la Défense Arena, il va d'abord falloir apprendre à slalomer entre les plots, ballon au pied. Marois s'élance, mais manque son tir. « Ce n'est pas grave, rassure l'enseignant. Tu ouvres ton pied et tu recommences. » Toujours dans la vie, je lis comment dans le Nord, la ville de Roubaix vise le bien-être de sa population en soutenant une pratique physique régulière pour tous. Et ça marche! La Croix, édition de ce mardi, nous raconte pour sa part l'histoire de Tanguy le Turquet. Ce navigateur de 34 ans qui a pris ce dimanche 28 avril le départ de la Transat CIC. Il disputera cette année son premier Vendée Globe. Un rêve égoïste, ce sont ses mots. Rêve égoïste que le Breton espère bien mettre au profit d'une cause qui lui est chère, les gens de la rue. Son bateau affichera en effet la couleur de l'association Lazare qui organise des colocations solidaires. Mais comment intégrer la dimension chrétienne de Lazare? Réponse de Tanguy. Je leur ai dit que je ne suis pas baptisé et que je ne vais pas à l'église, mais que je ne me considère pas comme athée parce que je crois en certaines choses. Et ils m'ont répondu par cette phrase qui résonne en moi et m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'on est catholique, on accepte tout le monde. Alors, avec son navire rose pétant, Tanguy le Turquet espère bien faire changer le regard des gens sur ceux qui vivent à la rue. On est capable, dit-il encore, de déplacer des montagnes pour aider les victimes d'une catastrophe naturelle à l'autre bout de la planète. Mais parfois, on n'arrive même pas à se préoccuper des personnes qui sont dans la misère, en bas de chez nous.
Et enfin, partons avec vous, Marie-Pierre, pour les grands espaces.
Et avec l'anthropologue grenobloise Nastassia Martin, qui, à l'occasion de la sortie en poche de son grand succès, Croire aux fauves, a ouvert les portes de son chalet et de sa réflexion à nos confrères de la Croix Hebdo. Elle raconte son enfance, son adolescence heureuse au pied du massif des Écrins et sa rencontre déterminante avec deux Alaskains, les habitants d'Alaska. À 18 ans, elle part à son tour pour l'Alaska et devient anthropologue. Plus tard encore, elle met le cap sur le Kamtchatka, péninsule située à l'extrême-orient de la Russie, le dernier vrai bastion de nature sauvage, là où vit un peuple d'éleveurs de rennes, les Evennes. Après la chute de l'Union soviétique, après avoir été sédentarisée au sein d'un sovkhoz, quelques familles repartent vivre dans la forêt pour y recréer un mode de vie autonome fondé sur la chasse, la pêche et la cueillette. En redevenant nomades, ils ont renoué le dialogue qui les liait à la nature et aux éléments. Pour la chercheuse, ouvrir son regard sur d'autres peuples est une nécessité vitale que rien n'arrête, pas même sa rencontre avec un ours très, très, très en colère. Et la suite, eh bien, la suite, vous la lirez dans la Croix Hebdo de ce week-end. Et pour finir, revenons à Toulouse qui célèbre cette année les 700 ans de l'Académie de Jeux Floraux. À cette occasion, dans les colonnes de la vie, son secrétaire perpétuel que nous connaissons bien ici sur cette antenne, l'historien Philippe Dazé-Brun, revient sur son itinéraire. Ce professeur à l'Institut catholique de Toulouse, qui a récemment fait paraître un remarquable ouvrage sur François Mauriac et son œuvre, eh bien ce professeur qui n'est pas pressé de prendre sa retraite, confie au magazine combien enseigner, c'est transmettre, partager ses passions, mais aussi encourager. Et de citer son maître, François Mauriac. C'est la foi que les autres mettent en nous qui nous indique notre route. Une belle maxime que je laisse à votre méditation pour la semaine.